Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous-nous Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, d'après l'OMS, 100 000 décès sont liés en Afrique au commerce des médicaments falsifiés. Un trafic criminel, une catastrophe sanitaire au centre de la conférence organisée hier, ici à Genève, au Palais des Nations de l'ONU. Conférence internationale sur l'accès aux médicaments de qualité en Afrique francophone, à l'initiative commune de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'ONU SIDA. Volonté de mobilisation face à une problématique multiple, tant au niveau des acteurs impliqués, de la nature des produits que de l'impact de ce trafic en termes de santé publique. Des produits dangereux, des principes actifs inexistants et des conséquences diverses. Des intoxications et aussi, en cas de dosage insuffisant, une résistance accrue aux bactéries et plus globalement se profile une baisse de confiance en la médecine et un risque de désaffection des campagnes de santé publique. La lutte contre les faux médicaments, c'est un défi tentaculaire. Face à l'insuffisance des contrôles et de l'arsenal législatif, à la difficulté d'accès au traitement, trop cher pour de nombreux patients, aux inégalités territoriales, au manque en termes d'officines de pharmacie et de personnel qualifié. Un trafic qui, ces dernières années, a pu s'appuyer sur une redoutable complice, la technologie numérique, qui a favorisé le commerce via Internet et rendu encore plus insaisissables les cerveaux de ce commerce mortel. Conférence ici à Genève, on l'a dit, à votre initiative commune, Michael Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de la francophonie et Michel Sidibé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif de l'ONU SIDA. Pour cette émission, nous voulions aussi donner la parole à des experts du dossier de terrain. Pernette Bourdillon et Steph, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes analyste au sein du système mondial de surveillance et de suivi des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiée de l'OMS. L'OMS qui co-organise également cet événement. Et Simon Caboret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du réseau pour l'accès aux médicaments essentiels du Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Les faux médicaments ne se contentent pas de tromper l'espérance des patients et qu'ils sont souvent des poisons qui tuent ou qui handicapent. Qu'on ne me dise pas qu'il ne s'agit pas là, en réalité, d'un crime.
Bientôt 10 ans écoulés depuis cet appel de l'ancien président Jacques Chirac, c'était en 2009 à Cotonou. Appel international, message politique pour lutter contre ce fléau des faux médicaments qui, toujours selon l'OMS, tue chaque année entre 700 et 800 000 personnes au niveau international. On est pris d'une sorte de tournis face aux chiffres, un trafic qui pèse pour plus de 10% dans le marché pharmaceutique mondial. Chiffre d'affaires qui aurait triplé en 5 ans, 2009 Jacques Chirac Cotonou, 2014 Dakar, résolution des chefs d'État de la francophonie. Et pourtant, Michael Jean, le phénomène, on l'a vu, s'est encore amplifié depuis. Michael Jean, comment une conférence diplomatique comme celle de Genève peut peser dans la balance?
Elle est plus qu'une conférence diplomatique, je dirais, parce qu'elle rassemble, oui, il est vrai, des ministres, mais des ministres qui ont un pouvoir quand même décisionnel, des ministres de la Santé, qui sont venus très très nombreux. Elle rassemble aussi des spécialistes, des experts. Elle rassemble la société civile. Et je crois que l'idée qui gouverne, en quelque sorte, à cette conférence, c'est celle qu'il faut passer résolument de la parole aux actes.
C'est-à-dire que à la vitesse supérieure, parce que on se dit il y a de plus en plus de résolutions, de plus en plus de déclarations, voilà. Et ces chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Chiffre d'affaires multiplié par 3 en 5 ans, qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'il y a eu ce premier appel lancé par Jacques Chirac à Cotonou, vous l'avez rappelé. Il y a eu aussi ces résolutions, ces déclarations parlant d'engagement et chaque fois s'intensifiant à chaque sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Et là, ce que nous voulons, c'est une déclaration, mais assortie d'un plan d'action sur la nécessité de sévir également parce que ce dont vous parlez, c'est d'un trafic, un trafic assassin, un trafic crapuleux. Vous savez qu'un dollar investi dans le trafic de cigarettes rapporte 10 dollars. Un dollar investi dans le trafic des stupéfiants en rapporte 100. Un dollar investi dans le trafic des faux médicaments en rapporte 1000. Et l'on sait que ces trafics financent aussi des organisations criminelles, mais également terroristes. Donc il y a un vrai problème, en plus de cette inégalité terrible devant la santé. Vous voyez la morbidité. Vous voyez aussi la santé de millions de personnes complètement hypothéquées par ces médicaments, ces produits médicaux falsifiés. C'est un drame. Donc il faut sévir. Il faut en arriver à ça aussi. C'est-à-dire sévir et punir, parce que jusqu'à présent, ceux-là, parfois ont une amende, tout au plus. Les autres, pour les stupéfiants, ont vraiment des sanctions beaucoup plus sévères, mais le crime est le même.
Volet répressif, forcément très important, on va y revenir, mais Michel Sidibé, il y a un véritable enjeu de santé publique dans cette question des faux médicaments. Plus les gens auront des médicaments qui ne servent à rien, voire qui carrément sont dangereux, qui peuvent les tuer, plus ils s'inquiéteront, moins ils auront confiance en le système de santé.
Vous avez tout à fait raison. Si on prend la question de l'accès à ces médicaments-là, le vrai problème que nous avons, c'est que nous remettons en cause complètement l'idée même d'aller vers une couverture sanitaire universelle. Parce que l'élément central de la couverture universelle sera de faire en sorte que les plus démunis, ceux qui ont été exclus, puissent avoir accès à des médicaments de bonne qualité, mais aussi abordables. Mais quand on prend la question, par exemple, de la lutte contre le sida, c'est pour cette raison que on s'associe. On s'est rendu très vite compte que la question, c'était de mettre les médicaments à la disposition du plus grand nombre. C'était un problème de justice sociale, d'équité. Et on a vu que en 2001, on n'avait que peut-être 90 personnes sous traitement dans les services publics en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on a 4 300 000. Mais si on a 4 300 000 de personnes sous traitement et sous des médicaments falsifiés, voyez un peu ce que cela pouvait coûter à la société. C'est plus de morts, c'est des résistances, c'est l'abandon des services de santé. Et puis, c'est pour moi, comme disait le professeur Gentilini, c'est un double crime. Il faut le reconnaître parce que c'est un crime contre, bien sûr, les malades, mais c'est un crime contre ces pauvres qui n'ont pas accès à des services de soins. On doit se mobiliser, on doit se battre contre ces médicaments falsifiés.
Vous citiez le nom du professeur Gentilini qui est maintenant associé à la Fondation Chirac, qui est aussi associé à cet événement. On peut se poser la question quand même, Michel Sidibé, si on dit des antirétroviraux, pour parler du sida, oui, qui sont distribués par des institutions internationales, par le biais de l'ONU Sida, ces médicaments sont faux. Quelle garantie on peut avoir alors dans des distributions de santé publique, dans des centres de soins locaux? Quel contrôle on peut avoir?
Non, il faut changer complètement le système. Il faut changer le paradigme. Ce que nous avons aujourd'hui ne fonctionne pas du tout. Et comme le disait Michael Jean, il faut faire de la falsification, moi je pense, une infraction criminelle.
On ne peut agir plus continuer. Au niveau pénal.
Au niveau pénal, il faut.
Il y a aussi toute la question de la surveillance, justement, Pernette Bourdillon-Estève. Il y a 5 ans, l'OMS a lancé un système mondial de surveillance, de suivi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 5 ans plus tard?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, l'OMS et tous ses États membres, ainsi que d'autres acteurs internationaux, ont reconnu que les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés étaient une menace inacceptable à la santé publique. L'OMS a pris ses responsabilités et dispose de 2 outils principaux pour y répondre. D'une part, le dispositif des États membres, qui est plutôt politique et qui permet de traduire des décisions politiques en des actions concrètes et tangibles sur le terrain. Et d'autre part, le système mondial de surveillance et de suivi, qui est une base de données que nous avons. À court terme, on apporte un soutien opérationnel et technique, comme des analyses de laboratoire ou de la gestion de crise aux pays qui nous font des notifications. Et d'autre part, à long terme, ces données sont analysées en continu pour nous permettre d'analyser quelles sont les causes, quelles sont les vulnérabilités, et de développer en fait des outils adaptés à chacune de ces causes, parce que chaque pays va avoir des besoins différents.
Est-ce que justement, certains pays ont tendance à davantage signaler des produits, des incidents liés aux faux médicaments que d'autres? Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
Un pays qui signale...
Des bons élèves, des mauvais élèves, on va dire.
Hein? Il y a une part de bons élèves et de mauvais élèves, on peut dire ça comme ça, mais c'est aussi, il y a beaucoup d'autres choses. Les meilleures notifications viennent du terrain. C'est-à-dire que c'est le patient ou le praticien de santé, il peut s'agir de l'infirmière, il peut s'agir du dispensaire, qui va se rendre compte qu'il y a un problème avec le médicament. Le problème, c'est que quand ces personnes-là s'en rendent compte, c'est que c'est déjà trop tard. le produit falsifié ou substandard a déjà traversé toute la chaîne d'approvisionnement pour l'atteindre. Et il faut que ces informations remontent au niveau des autorités de réglementation. Donc nous avons développé par exemple une application smartphone pour faciliter
là,
ce processus.
Là,
ça c'est absolument du concret. En fait, on s'est rendu compte que les autorités de réglementation n'avaient pas d'informations de retour depuis le terrain. Ils n'arrivaient pas à savoir ce que disait le médecin, ce que disait l'infirmière, etc. parce que c'était tout basé sur papier, que c'était long, ils n'avaient pas le temps. Alors on a développé une application smartphone et en moins de 90 secondes, avec 3 photos, ils peuvent notifier un produit suspect. Il se peut que ce produit, en fait, marche très bien.
L'information, dans ce cas-là, elle arrive, Pernette Bourdillon-Estève, elle arrive à l'OMS et après, elle doit redescendre encore. Tout ça, ça prend pas un petit peu trop de temps? Comment ça
en
se
fait,
passe?
En fait, non, on a vraiment fait ça pour et par les pays. L'information arrive aux autorités de réglementation des pays. Si et seulement si les autorités de réglementation souhaitent ensuite le notifier à l'OMS, elles le notifient.
Donc on a vraiment tout dépend encore des pays.
Tout dépend des pays, mais en fait, nous, on leur offre tellement d'outils pratiques, ils y voient l'intérêt à notifier. Parce que quand ils notifient beaucoup, ils voient qu'on arrive à développer des projets qui sont vraiment adaptés à leurs besoins. On arrive à cibler quels sont les dispositifs de détection rapide qui correspondent, par exemple, aux molécules qu'ils veulent surveiller. Donc, ils voient qu'il y a un intérêt immédiat. En fait, on leur produit un service et en retour, ils nous notifient.
Simon Caboret, justement, vous êtes de ceux qui font remonter les informations après des observations, pour votre cas au Burkina Faso. Comment est-ce que ça se passe, justement? Comment est-ce qu'on décèle un faux médicament et comment faire remonter cette information?
Je pense que déjà, le truc très apparent d'un faux médicament, c'est que vous prenez votre traitement et vous n'avez pas de résultat. C'est-à-dire que vous êtes toujours malade, malgré le traitement que vous avez pris. Ou bien vous avez pris le traitement et vous avez des effets très violents. Qui vous cause soit une hémorragie, soit des vomissements, ou bien une irritation, une éruption sur la peau, et qui alerte. Malheureusement, les faux médicaments sont devenus tellement raffinés qu'à vue d'œil, il est difficile pour quelqu'un, du citoyen lambda, de savoir que c'est un faux médicament. Ce n'est que les effets liés au côté toxique du médicament, ou bien au fait qu'il n'y a pas d'effet, qui alerte qu'il y a un médicament.
On peut dire que c'est quand le mal est fait.
Voilà, c'est quand généralement le mal est fait. Ce qui fait qu'il faut faire un travail en amont pour réellement prévenir. Maintenant, le seul problème qu'il y a est que le système de notification aujourd'hui de ces effets n'inclut pas directement la population. Très souvent, on a des cas dans la population, les gens notent des effets, mais le système au niveau des pays n'inclut pas effectivement la possibilité pour les communautaires de notifier des effets qu'ils suspectent, qu'ils ressentent. Je pense que c'est un maillon.
Mais Simon Caboret, il faut que les gens soient informés. Par exemple, si une maman qui a donné un traitement à son bébé, on va dire un cas concret, la pneumonie, elle a donné des antibiotiques, elle voit que le bébé n'est pas soigné. Est-ce qu'elle sait où aller pour le dire, pour dire attention, ce traitement, je vais parler avec un mot vulgaire, c'est bidon, ça ne marche pas, c'est inefficace. Est-ce qu'elle sait où aller?
Je dirais non, d'une certaine manière. Le réflexe qu'elle a, bien sûr, c'est de repartir vers l'agent de santé. Mais c'est comme je le disais tantôt, le système doit être vraiment retravaillé pour qu'au niveau communautaire, on soit plus sensible à ça et qu'on sache quelle est la conduite à tenir. Parce que le risque aussi est que souvent, quand la maman parle, l'agent de santé a l'impression que c'est peut-être parce que la maman n'a pas donné bien le médicament ou bien parce qu'elle a mal conservé le médicament. Donc le doute revient très souvent sur la maman et on met du temps pour reconnaître qu'en réalité, c'est un faux médicament.
Donc, d'autant plus qu'il arrive que dans la structure de distribution du soin lui-même, il peut y avoir des personnes, ça arrive dans certains cas, qui introduisent aussi dans le réseau, dans le circuit, des faux médicaments.
Je pense qu'on a beaucoup de preuves qui montrent qu'effectivement dans le circuit soi-disant formel, il y a à plusieurs niveaux des entrées frauduleuses de médicaments.
C'est ce qu'on a vu au Bénin avec le procès récemment, avec l'ordre des pharmaciens qui a été suspendu justement parce que les personnes avaient été directement incriminées
et condamnées par la justice. Le cas du Bénin n'est pas isolé, ça c'est sûr.
Pernette Bourdillon-Estève, les acheteurs localisés, on l'a dit, hein, plus on est pauvre, plus on est vulnérable, plus on est exposé à ces faux médicaments. On pointe aussi les pays producteurs. Pour ne pas les citer, deux d'entre eux, la Chine, l'Inde. Pourquoi ces pays?
Les produits de qualité inférieure et falsifiés sont fabriqués et consommés dans tous les pays. Il ne s'agit pas toujours...
Ça veut dire que quand on cite ces deux pays, c'est une forme de stigmatisation?
Ça peut être une forme de stigmatisation. Il faut surtout faire un ratio par rapport à la production de ces autres pays, par rapport à tous les autres pays du monde. Et je peux vous assurer, dans les cas que l'on a vus, vous aurez toujours des acteurs locaux qui s'assurent que ce commerce-là se fasse au niveau local. Vous avez des agents locaux qui s'assurent de ça.
Donc... Je comprends bien qu'il y a des intermédiaires, mais est-ce qu'aussi ne pas engager des actions concrètes, parce qu'on parle beaucoup des pays où les populations sont vulnérables, mais des pays d'exportation de certains produits, y compris ceux qui abritent, on va en reparler tout à l'heure, les technologies Internet qui permettent de commercialiser. On a un petit peu l'impression qu'on se focalise sur les victimes et pas sur les responsables.
Le problème, c'est que c'est souvent très difficile d'identifier les responsables. Quand on a une investigation sur des produits de qualité inférieure ou falsifiés, il y a deux routes à prendre. La chaîne d'approvisionnement par laquelle le produit est arrivé, ça c'est une chose, et après, la chaîne par laquelle l'argent est parti. Il faut suivre l'argent, mais il faut avoir les moyens de suivre l'argent, et beaucoup de ces pays-là ne sont pas équipés pour faire les investigations. Et dans beaucoup des pays les plus vulnérables, ils se concentrent sur l'intervention plutôt que la prévention et la détection. On a développé cette application mobile, et actuellement, deux pays pilotes en ont bénéficié. Il s'agit de la Tanzanie et de l'Indonésie. Les pilotes ont été réussis, donc on va pouvoir le lancer dans beaucoup d'autres pays. Et vous avez parlé de praticiens de santé qui étaient impliqués dans ce trafic-là. Et je voudrais juste vous donner l'exemple, par exemple, de l'Indonésie qui, en 2016 ou en 2015, c'était des praticiens de santé au sein des hôpitaux qui recyclaient des flacons, des vaccins, et en fait faisaient croire aux parents que le vaccin qu'ils leur vendaient était bien mieux que le vaccin gratuit. Donc en fait, ils ont créé un problème
parallèle.
Ils ont créé un problème d'accès alors qu'il n'y avait pas de problème d'accès. Le vaccin était disponible et il était gratuit. Et ils ont créé un problème d'acceptabilité en leur disant que l'autre vaccin créait plus d'effets indésirables. Les parents ont payé et ils ont payé pour un produit qui était un faux dans lequel ils ont mis une petite dose d'antibiotique pour ne pas que ça se détecte sur le site d'injection.
Donc en plus, avec vraiment, là on peut dire c'est de la préméditation, c'est machiavélique. Quand on parle des faux médicaments, un nom revient, ce nom c'est Medicrim, hein, un outil légal qui a été lancé en 2010, notamment par les Européens, et les pays africains qui ont ratifié cette convention. Medicrim se compte sur les doigts d'une seule main, ils sont quatre. Michael Jean, est-ce que la francophonie peut justement avoir un rôle pour inciter d'autres pays de cet espace justement à rejoindre cette convention Medicrim? Je vais quand même citer ceux qui l'ont fait parce que c'est déjà pas mal. Le Burkina Faso, la Guinée, il y a le Maroc et la Côte d'Ivoire pour l'instant. Peut-être que le Congo-Brazzaville va le faire avant la fin de l'année. Est-ce que vous avez une action justement pour cette convention spécifiquement puisque cet outil existe?
Je pense que le plan d'action a pour objectif exactement ça. C'est-à-dire qu'il y ait un effet d'émulation des pratiques, des dispositifs mis en place par certains pays. Donc, ce que fait la francophonie, c'est qu'elle permet ce partage, c'est-à-dire agir ensemble et voir ce que les pays ont su mettre de l'avant et l'impact que cela a. Et donc, avec ce plan d'action dont nous avons signé les termes
hier soir,
nous allons le porter à la connaissance des chefs d'État et de gouvernement au prochain sommet, donc très vite, hein, en octobre de cette année, 2018, pour qu'ils ratifient ce plan d'action. Et cela veut dire aussi que cette première grande réunion, qui rassemble quand même des centaines de personnes, sera suivie aussi vraiment d'actions concrètes pour que l'on puisse avancer ensemble sur des mesures qui ont montré leur efficacité. Il y a une autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que pour ce qui est en particulier des pays africains, il y a en ce moment des laboratoires de fabrication de médicaments de qualité qui émergent en Afrique.
Un gros problème sur la production locale.
La production. Il faut absolument engager de la coopération, il faut engager aussi des investissements pour que l'on ait une production aussi continentale sur le continent africain de médicaments de qualité. Nous avons par exemple également un réseau de normalisation pour la francophonie sur les certifications, les labels, avec l'aide aussi de l'OMS. Dans ce partenariat élargi aussi avec l'ONUSIDA et d'autres partenaires, la CNUSED et d'autres, nous allons faire un travail en ce sens. Il y a une dimension également économique à tout cela. Parce qu'en ce moment, le continent est devenu une espèce de déversoir, y compris, vous savez, hein, sur des préservatifs. Il y a des tonnes de préservatifs périmés qui sont déversés sur l'Afrique.
Parce que sous cette dénomination de faux médicaments, de médicaments contrefaits, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi des choses qui ne sont plus efficaces.
Qui sont des produits médicaux. Donc vous voyez jusqu'où va le crime. Et en plus, ce trafic rapporte tellement qu'ils sont entrés dans une sophistication incroyable pour masquer, hein, copier même les emballages et tout, et tromper davantage.
Michel Sidibé, vous vouliez réagir.
Je crois que ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas trop s'attarder sur seulement les questions techniques. C'est un problème problème politique. Il y a un problème de gouvernance ici, de gouvernance mondiale de la santé. Et je crois que tant qu'on n'abordera pas cette question-là au niveau régional, au niveau continental, pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre, d'un, de pouvoir avoir un cadre légal avec une réglementation, avec des politiques d'harmonisation et avec des systèmes de données qu'on pourrait mettre en place qui nous permettraient de mieux savoir quels sont les éléments stratégiques, d'informations stratégiques pour nous permettre d'agir. La technologie, je suis tout à fait d'accord, mais je crois que la question, elle est très compliquée pour la simple raison que vous l'avez dit à un moment donné, ce n'est pas seulement ceux qui reçoivent ce médicament. Il faut mettre en parallèle aussi une harmonisation, une coordination plus globale. Parce qu'une responsabilité partagée quelque part. Quand vous avez 40 tonnes de médicaments, de faux médicaments qu'on retrouve sur le marché d'Adjamé et que le ministre détruit en 2017, ces faux médicaments-là, il y a un ciblage bien particulier. Pourquoi l'Afrique devient subitement une cible privilégiée? C'est parce que c'est là où on trouve des clients, c'est là où on a les plus pauvres, c'est là où les gens qui sont malades n'ont pas accès à des services. Donc, il y a toute une démarche de transformation de l'approche de santé en général et aussi la question de sensibiliser nos populations. Nos populations ne savent pas et elles sont exposées, elles sont prises en otage par ces mafieux qui en profitent.
On va avoir une illustration tout de suite, si vous le voulez bien. Vous m'avez tendu la perche avec ce marché d'Adjamé. C'est précisément le marché d'Roxy, hein, oui. Numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Oui. Igor Strauss avait réalisé pour Priorité Santé un reportage là-bas, c'était en 2016. Un petit retour en arrière pour entendre justement ce qui se dit dans les allées de ce marché avec d'abord cette vendeuse de médicaments.
Comment ça va?
Ça va bien.
Alors, vous pouvez me dire votre nom?
Bon, je m'appelle Fatmata.
Vous avez quel âge?
J'ai 38 ans.
Et qu'est-ce que vous faites au marché de Roxy, vous?
Moi, je vends les produits cosmétiques.
Et les médicaments aussi?
Oui, quelques-uns, comme les seringues.
Et est-ce que c'est un bon travail?
Pour la santé, je veux dire que bon, c'est pas trop bon parce que bon, il y a des gens qui viennent souvent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Comme c'est un peu moins cher, c'est des trucs qui sont revendus à deuxième main. Ils ont du mal à aller dans les pharmacies, à aller acheter des produits.
Alors, quand vous dites de seconde main, ça veut dire ça vient d'où?
Il y a des gens qui ont leurs parents qui sont à l'hôpital, qui délivrent des médicaments de la pharmaceutique, qui viennent nous revendre. Et nous, on revend ça aux gens, des démunis, quoi, c'est pour les démunis en fait.
Donc, il y en a beaucoup qui viennent?
Beaucoup viennent de temps en temps, mais depuis, les gens ont commencé à parler à la télévision que ça donne l'insuffisance rénale, beaucoup de maladies, donc on ne gagne plus de clients. On veut que l'État nous aide. Nous, on n'a même plus envie de vendre. Les roseaux se disent que c'est des produits qui ne sont pas bons, donc ça ne marche plus.
Alors pourquoi vous ne changez pas de commerce?
Moi, pratiquement, j'ai changé. Je vends les produits cosmétiques.
Oui, mais dans les cosmétiques aussi, il y a beaucoup de faux.
Il y a beaucoup de faux. Des produits dépigmentés. Le...
Et est-ce qu'il y a de plus en plus de vendeurs de faux médicaments?
Oui,
ou de moins
en
moins?
Plus. Oui, il y a beaucoup de vendeuses qui sont venues.
Bon, on va dire le nom. Je suis fonctionnaire de police.
Alors, vous pouvez me présenter un peu le marché de Roxy où on est là? C'est noir de monde, partout des échoppes. Beaucoup de faux médicaments.
Les faux médicaments, c'est là le plus grand. Nous retrouvons des médicaments des pharmacies au niveau de Roxy. Par quelle magie du Saint-Esprit, nous ne savons pas. Par quel miracle, nous ne savons pas comment ces médicaments se retrouvent ici. Je vous dis, moi j'en ai payé des médicaments de pharmacies qui se retrouvent chez Roxy.
Donc vous-même, en tant que policier, vous achetez vos médicaments,
oui,
ici?
Bon, en fait, certains médicaments, pas tous les médicaments, certains médicaments.
Lesquels, ouais, par exemple?
Oh, les médicaments, les antibiotiques, voilà, bon. Sinon, je suis convaincu, je sais que certains médicaments ne sont pas bien tenus. Les vendeuses n'ont pas de frigo pour les conserver. Les piqûres, les antibiotiques se retrouvent dans la chaleur, tout et tout. Mais vous savez, le malade ne demande que des médicaments pour être guéri. On se remet au jugement de Dieu.
Mais un policier qui est censé lutter contre le trafic de faux médicaments et qui vient lui-même acheter les médicaments,
oui,
ici,
mais
c'est un paradoxe.
Mais comprenez-nous que ce n'est pas tous les jours. Vraiment, j'ai mis un frein à ça.
Et vos collègues, ils ont mis le frein aussi ou pas?
Oh non. Là, ils font la traque au quotidien. Ils font leur travail correctement. Par moments, les barrages sont saisis, mais par moments, quand c'est chaud, il faut se rabattre là. On n'a pas les moyens.
Un policier, hein, qui n'a pas les moyens, il achète des médicaments à Abidjan avec Igor Strauss, c'était il y a 2 ans. Simon Caboret, dans ce reportage, on entend une forme de détachement quand même par rapport à la gravité de ce qui se passe par rapport à la nature de ce produit vendu, comme si ce trafic, en quelque sorte, eh bien, c'était pas si grave que cela.
En réalité, c'est ce qu'on dit souvent. Je pense qu'il y a un problème de prise de conscience par rapport au danger même de ces médicaments. Chaque fois que nous avons l'occasion de le dire, on le dit. Nous parlons des faux médicaments dans certaines sphères, dans certains milieux où les dangers sont déjà connus. Comme on dit chez nous, du bas peuple, c'est pas toujours aussi évident de savoir effectivement quelle est la différence entre le médicament vendu en pharmacie et le médicament vendu au marché. Et nous disons toujours, l'Afrique a un tissu associatif très très développé qui est tellement habitué à communiquer avec les populations, il faut qu'on les mette dans le coup pour lutter contre les faux médicaments. Mais très souvent, c'est l'ordre des pharmaciens qui parle. Et quand l'ordre des pharmaciens parle, la population a tendance à considérer que c'est, au fait, ils combattent la concurrence. C'est parce que simplement les médicaments de la rue marchent que les propriétaires d'officines dénoncent les faux médicaments. C'est ça qui détruit... Véritable problème d'information. Donc nous pensons qu'il y a un gros paquet de sensibilisation, de prise de conscience. Comme la dame l'a si bien dit, parce que simplement les gens ont pris conscience qu'il y a un danger, ils ne viennent plus acheter. Et elle, comme les gens ne viennent plus acheter, elle est obligée de changer des médicaments. Donc vous voyez rien que simplement comment la prise de conscience entraîne. Et si celle-là ne va plus payer chez le grossiste aussi est obligé de changer de métier et après, ainsi de suite, la chaîne va remonter. Je pense que c'est la base sur lesquelles il faut vraiment travailler.
Tout à l'heure, on a cité rapidement ces saisies et des opérations assez spectaculaires de destruction de médicaments. Pernette Bourdillon-Estève, est-ce que d'après vous, ce genre d'opération, ça permet de marquer les esprits et de faire changer les mentalités où finalement ce n'est que de la communication, que de la communication médiatique?
Ces opérations sont clairement des opérations de communication, mais au bon sens du terme. Mmh. Elles sont là aussi pour faire changer les esprits. Je veux juste rebondir sur une chose. Les produits falsifiés et de qualité inférieure ne se trouvent pas que dans la rue. Et ça, c'est vraiment important.
On en trouve aussi dans les hôpitaux.
On en trouve dans les hôpitaux, publics, privés. On en trouve dans la chaîne régulée et licite du médicament. Et c'est là où c'est un grand problème. La base de données de l'OMS, qui est une base de données de notification par cas, donc on ne peut pas extrapoler là-dessus, mais contient bien plus de notifications sur des produits qui sont trouvés dans les chaînes licites que dans les chaînes illicites. Et juste en matière de comparaison, en Afrique, on parle beaucoup de marché de plein air, qui se trouve surtout en Afrique de l'Ouest et moins en Afrique de l'Est ou du Sud.
Ce qu'on appelle les médicaments par terre.
Exactement. Voilà. Mais l'équivalent dans d'autres pays du monde, ça peut être Internet. Donc,
ce ne sont pas forcément les mêmes produits. En préparant cette émission, j'ai vu, il y a beaucoup de produits qu'on appelle, même si c'est tout aussi dangereux, de produits de confort pour les pays développés.
Mais vous avez aussi des anticancéreuses.
Exactement, des choses qui sont inaccessibles parce qu'éventuellement, les gens perdent leur couverture santé. Donc là aussi, on a un aspect social. Ils vont aller vers des anticancéreux parce que finalement, ils ne sont plus suffisamment remboursés par leur propre système de santé.
C'est un problème d'accès, soit en termes de coût ou en termes d'accès, soit parce qu'il peut y avoir un tabou. Tous les produits de la reproduction ou de la santé maternelle, quand vous n'avez pas accès à un planning familial et que vous êtes une jeune femme et que vous voulez avoir un contraceptif d'urgence et que vous n'en avez pas, ou que vous ne pouvez pas aller dans votre pharmacie en acheter, vous allez vous tourner vers des sources qui ne sont pas sûres. Et ça peut être un gros problème parce que vous imaginez l'impact que cela peut avoir sur la santé. Une jeune femme qui prend un contraceptif d'urgence qui ne marche pas parce qu'elle a pris un préservatif qui était falsifié par exemple, ça ne marche pas. Après, du coup, comment est-ce qu'elle va faire une terminaison de grossesse dans des conditions sûres? Le nombre de morts prématurées dues à ça est hallucinant.
La maman peut tout simplement s'empoisonner, empoisonner le bébé si après la grossesse se prolonge. Michel Sidibé, pour résumer, on peut dire que finalement, on prend aussi simplement des médicaments au marché, des faux médicaments, parce que le marché des médicaments dans son propre pays, eh bien, il n'est pas à la hauteur.
Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à pousser nos gouvernants à réfléchir sérieusement à cette question de médicaments falsifiés. Et les médicaments, d'abord, ne sont pas accessibles. L'accès est un problème très sérieux. La plupart des populations pauvres n'ont pas le choix. Et la seule chose qui leur reste, c'est d'aller chercher ces médicaments falsifiés bas prix. Mais il faut que la réforme porte aussi sur les aspects de coordination. Ça ne peut pas marcher si on n'arrive pas à amener les grossistes, les patients, la société civile, les différents acteurs qui sont ceux qui distribuent ce médicament, ceux qui l'achètent. Il faut qu'on les amène autour d'une même plateforme de discussion qui permettrait une plus grande sensibilisation et aussi revoir les lois. Comme je disais, les lois ne permettent pas aujourd'hui de punir, ne laissent l'ouverture à la plupart de ces mafieux de se faire de l'argent. C'est pratiquement 150 milliards 150 à 200 milliards. Le revenu,
c'est une manne.
C'est une manne, c'est extraordinaire. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce marché. Il faut le combattre et s'organiser entre pays.
Vous écoutez Priorité Santé. Nous sommes à Genève à l'occasion de la conférence internationale sur l'accès aux médicaments et aux produits médicaux de qualité en Afrique francophone. Conférence sous l'impulsion de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes toujours avec la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean. Rendez-vous sous l'égide également de l'ONU-SIDA. Toujours avec nous, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. La Fondation Jacques Chirac et l'OMS soutiennent l'initiative. Avec nous, Pernette Bourdillon-Estève, analyste à l'Organisation mondiale de la santé, et Simon Caboret, directeur du réseau pour l'accès aux médicaments essentiels du Burkina Faso. Simon Caboret, entre la volonté affichée, même des fois au niveau politique, la réalité du terrain, certains estiment qu'il y a des moyens trop limités pour faire face à ces médicaments de qualité inférieure, voire carrément falsifiés. Finalement, certains dirigeants laissent faire parce que ça permet de ne pas trop en faire au niveau de l'accès aux soins. Ces médicaments circulent, pas besoin de mettre des médicaments de qualité dans les pharmacies et surtout d'ouvrir des pharmacies parce que l'Afrique manque cruellement de pharmacies.
Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème de volonté politique. Et souvent, je cite un exemple qui s'est passé au Burkina Faso. Il y a eu un moment un peu en prélude des élections présidentielles. Il y a un produit qui circulait dans la rue avec la photo du président et de sa femme. Et un produit très très fort. Quand vous le prenez avec des migraines que vous avez, ça soulage très rapidement. Et on a commencé à dire, oui, le président a amené un médicament moins cher pour soulager les populations. Mais il a fallu que la presse s'en mêle et commence à dénoncer. Mais miraculeusement, le produit a disparu de la circulation. Ça veut dire qu'à quelque part, on sait où aller fermer le robinet. Mais c'est la volonté politique qui manque. Donc je pense que fondamentalement c'est une véritable situation, mais je ne pense pas qu'ils le prennent forcément comme une alternative. Je pense que c'est beaucoup plus ce que M. Sidibé a dit, c'est beaucoup plus en termes de revenus, parce que quand même tous ces milliards engrangés, certainement qu'il y a beaucoup de gens au niveau national qui en profitent, et je pense que c'est ça qui fait que c'est un peu difficile. Quand vous prenez toute la chaîne de douane où les médicaments passent, ça veut dire qu'il y a des gens qui ferment les yeux et laissent passer les médicaments. Mais dans les réformes dont il a parlé, j'aimerais insister aussi dans la réforme de nos systèmes de santé, dans la fourniture des soins. Comment est-ce qu'on accueille le patient? Comment est-ce qu'on disponibilise le médicament? Comment est-ce qu'on le dispense? Comment la personne se sent en venant dans la structure de santé? Je pense que c'est ça qui est très fondamental, parce que si, par exemple, quelqu'un doit laisser, par exemple, son marché dans son hangar, aller passer toute la matinée dans un centre de santé pour acheter son médicament et perdre son revenu journalier, il préfère payer chez son voisin qui vend ce médicament et continuer à faire son marché.
C'est pas simplement de la facilité, c'est aussi parce que son revenu en dépend.
Voilà, parce que son revenu aussi en dépend. Je pense qu'il faut qu'on retravaille tout notre système de fourniture de soins, d'accès aux services à la base, pour faciliter effectivement le recours au système formel que effectivement les systèmes parallèles.
Quand on vous écoute, Simon Caboret, je me tourne vers vous, Pernette Bourdillon-Estève, on comprend bien la multiplicité des enjeux. On ne peut pas appuyer sur un seul levier à la fois. Il faut agir au niveau de la politique, au niveau des capacités de production, au niveau de la loi. Comment s'en sortir en appuyant sur tous ces leviers à la fois?
Il n'y a malheureusement pas de baguette magique. Dans les analyses que nous avons faites sur les 5 dernières années, nous avons identifié que les 3 causes principales des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés étaient des problèmes d'accès, des problèmes de gouvernance, de mauvaise gouvernance, et des problèmes de capacité technique. Mais quand je parle de capacité technique, il ne s'agit pas que des capacités techniques des agences de réglementation du médicament, mais de tous les autres organes de l'État qui sont censés protéger la population. Aucun pays ne peut mettre en œuvre une stratégie absolument exhaustive et idéale. Tout le monde doit prioriser ses moyens, même les pays les plus riches. La stratégie que l'OMS propose est une stratégie de prévention, détection et intervention. Elle peut se diviser avec des différents segments. La première chose, c'est qu'il faut s'assurer qu'il y ait une demande de qualité. Que cette demande de qualité, elle doit se faire à la fois au niveau du consommateur, celui qui achète le médicament, qui sait qu'il ne doit pas aller dans les marchés de rue, mais aussi celui, par exemple, du grossiste, qui doit vérifier que celui qu'il fournit en médicament est une personne ou un organisme de confiance. Ensuite, il faut s'assurer que la chaîne d'approvisionnement soit intègre. Si cela échoue, il faut améliorer les capacités de détection. C'est-à-dire qu'il faut, une fois que le produit a pénétré la chaîne d'appro, il faut le détecter. Ensuite, il faut le notifier, parce que c'est bien beau de le détecter, il faut que les organismes idoines puissent faire quelque chose. Et la première chose à faire en termes d'intervention, c'est de protéger la santé publique. Ça, c'est la toute première chose. Et ensuite, il faut intervenir à long terme, c'est-à-dire mettre en œuvre les leçons tirées de l'expérience et empêcher la récurrence. Donc c'est toujours prévention, détection, intervention.
Michael, j'en fasse un tel chantier. Hein. Je veux dire, là, on dit, mais il faut.
Oui,
mais quand est-ce que ça va aboutir? Parce que c'est en termes de dizaines et de dizaines d'années,
oui,
tout est à reprendre de façon structurelle.
En même temps, de façon structurelle, et on le disait tout à l'heure, c'est une question aussi de responsabilité, c'est une question de gouvernance. Et je crois que l'option aussi d'investir dans une couverture santé universelle, elle est essentielle.
Parce qu'on a vu sur les chiffres simplement, quand on est couvert, il y a moins de trafic.
Exactement.
Tout simplement, c'est arithmétique.
Et puis en même temps, c'est une question de protection de la vie, c'est un droit fondamental. Donc là déjà, c'est un bon départ. Il faut s'y mettre. D'autre part, soutenir aussi la production locale, s'assurer d'une plus grande responsabilisation aussi des producteurs sur le marché international, parce que tout à l'heure, Pernette le disait fort bien, je veux dire, ils sont de tous les pays, quoi. Des pays aussi développés, industrialisés, déversent des médicaments falsifiés ou de mauvaise qualité, des produits médicaux, je veux dire, qui sont totalement inacceptables et qui sont hautement dangereux. Il y a ça au fait. Et on parle beaucoup d'objectifs du développement durable. Il faut savoir que quand il n'y a pas la santé, il n'y a plus moyen d'atteindre aucun des objectifs de développement durable. Parce que c'est une perte de productivité. Ça ne fait qu'ancrer davantage la situation, je veux dire, de déperdition de force. La santé est à la base de tout. Quand des enfants meurent, je veux dire, parce que même les nourrissons, même les enfants sont les victimes de ce trafic, je veux dire, dès lors, c'est à la vie qu'on s'en prend. Donc, il faut engager aussi des campagnes de sensibilisation, d'éducation. Alors, on dit, oui, mais il ne faut pas se décourager, hein, il ne faut pas se dire, mais la tâche est trop énorme. Non, je pense que oui, on peut engager tout cela. Et c'est aux États aussi de se responsabiliser à cet égard. Et il faut une approche multidimensionnelle, multipartenariale. Aucun pays ne peut s'en sortir seul. Donc le fait de faire front commun, c'est essentiel. Et d'engager secteur privé, secteur public, et de faire en sorte que sur une marche de responsabilité, on y arrive. Parce que bon, voilà, c'est la vie qui est en danger.
Michel Sidibé, tout le monde est convaincu autour de cet état. Moi, je voudrais juste vous dire quelque chose. Quand il y a des priorités à faire, en général, c'est le ministère de la Défense qui a plutôt les billes et pas vraiment le ministère de la Santé, surtout dans certaines régions d'Afrique francophone en ce moment où il y a eu des problèmes qui méritaient aussi qu'il y ait une réponse au niveau des mesures de sécurité. Comment faire qu'il y ait une forme de sanctuarisation de ces budgets de la santé pour arriver à ce changement structurel?
Moi, je crois que d'abord, il faut comprendre que dans la plupart de nos pays, on n'a pas compris que la santé, c'était un investissement. On considère que c'est un coût et les ministres des Finances ont des problèmes pour allouer des ressources pour la simple raison que pour eux, c'est augmenter une couverture, ça ne change pas fondamentalement la nature de leur action en termes de croissance, en termes de développement. Il faudrait d'abord changer cela. Il faudrait qu'on comprenne que c'est un investissement, que la santé est à la base de la transformation de la société. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je disais que ces médicaments falsifiés, il faut voir, ces médicaments suivent une clientèle. Et je voudrais bien préciser cela. On a 25% du poids de la maladie mondiale en Afrique. Mais la plupart de ces malades n'ont accès à aucun service, n'ont aucun système de prise en charge, n'ont pas de système de sécurité sociale. Et souvent, ces personnes payent à partir de leur poche.
Justement, quand vous nous parlez de couverture santé universelle, bien sûr, fixer des objectifs, c'est essentiel quand on parle politique.
Oui.
Mais c'est comme l'éradication de ces produits falsifiés. On voit que le système contribue davantage à ce que ça se développe davantage à faire régresser cette situation.
Mais c'est pour cette raison que je pense qu'il est important que nos gouvernants comprennent que lorsqu'on a 25% du poids de la maladie mondiale et qu'on a la plupart de nos populations, les populations sont pauvres et elles n'ont pas accès aux médicaments, il faut commencer aussi à penser à la production locale. On a aujourd'hui que 3%, je vais vous dire 3%, je dis bien des médicaments que nous consommons en Afrique qui sont produits par l'Afrique. 3%, pas plus que cela. Donc, il y a tout un marché qui est ouvert, qui permet toute forme de manipulation. Donc, il faut songer à produire ce médicament-là. Il faut aussi mettre des politiques d'harmonisation. On a très peu de systèmes aujourd'hui de régulation. Vous avez, par exemple, une agence du médicament. Nous pouvons avoir des agences sous-régionales du médicament pour harmoniser, pour faire en sorte qu'on puisse avoir des mécanismes de contrôle et qui nous permettraient d'aller au-delà des pays pour avoir une approche plus intégrée. Ces questions-là sont des questions de fond. Si on ne les aborde pas, on sera toujours pris en otage par des formes de manipulation. 40 milliards ou 50 milliards de pertes par an en Côte d'Ivoire. 40 à 50 milliards, je dis bien, de francs CFA, de pertes par an à cause des médicaments falsifiés. Mais c'est une perte énorme de revenus. Ça n'encourage pas ceux qui veulent investir. Et ceci étant dit, il faut vraiment...
Et je pense que c'est bien que vous ayez introduit la question de la défense. Parce que l'on sait clairement aussi que les revenus de ces trafics vont également aux organisations criminelles transnationales et vont aussi aux organisations terroristes. Et souvent, les deux sont ensemble. Je veux dire, elles sont dans une même logique, quoi. Donc, il est clair que lutter contre ces trafics, c'est aussi, en quelque sorte,
lutter contre les financements,
et c'est aussi lutter en faveur de plus de sécurité, plus de stabilité. Et là, il faut le voir ainsi de manière globale. Mais ce que je trouve très important, regardez nous ici autour de la table, société civile, Organisation mondiale de la santé, Organisation internationale de la francophonie, ONU-SIDA, donc l'ONU, et nous avons d'autres organisations partenaires qui ont été rassemblées autour de ce plan d'action. Il faut arrêter l'éparpillement aussi. Il faut rassembler davantage nos efforts sur des solutions concrètes. Par exemple, même quand on parle de production locale, il faut pouvoir introduire aussi des normes de qualité. Il faut aussi pouvoir introduire des standards. Donc, tout ce travail justement structurant, ce partage de connaissances, engager aussi davantage la responsabilité sociale des entreprises, y compris de ces grandes entreprises qui sont à la fois partie de la solution, mais aussi partie du problème.
Pernette Bourdillon-Estève, il y a des grosses différences d'un pays à l'autre. On citait tout à l'heure le Bénin parce que le Bénin semble vouloir changer les choses en profondeur, aussi bien du point de vue judiciaire que légal. Est-ce qu'il y a d'autres pays comme ça qui donnent des signes en Afrique de l'Ouest, des signes concrets de volonté de changer les choses ?
Le meilleur signe de volonté de changer les choses, ce sont les pays qui investissent, et ça, M. Sidibé l'a bien dit, qui montrent que l'investissement dans les autorités de réglementation du médicament, eh ben ça, c'est un investissement à long terme, qui est un investissement rentable.
C'est, pas un procès médiatique, ça va être quelque chose dans le contrôle, sur le long terme, pour voir aussi l'avenir.
Et c'est ça le plus important, c'est que les autorités de réglementation soient dotées des capacités d'inspection, qu'elles soient dotées des capacités de quarantaine, et ça, c'est lié évidemment à la législation. On ne peut pas mettre en quarantaine des produits si on n'en a pas les pouvoirs. Tout ce qui est notion de force d'application de la loi, c'est application de la loi précisément. Donc ça, c'est vraiment très important.
Simon Cabouret, vous voulez réagir?
Oui, je voulais revenir sur la question de la production locale des médicaments. Très souvent, effectivement, nous avons pensé, à un certain moment, nous avons fait un fort plaidoyer pour qu'effectivement l'Afrique produise ses médicaments. Mais malheureusement, que ce soit au niveau même de nos pays, de l'Afrique, ou bien au niveau international, il n'y a pas eu beaucoup de foi en ça. Alors que nous disons une chose, nous quand on écoute les services douaniers au niveau international poser le problème de la lutte contre les médicaments falsifiés, c'est quoi? C'est comment suivre la traçabilité de ces médicaments. Parce que c'est simplement ces médicaments qui traînent loin et les gens pour effacer les traces font voyager le médicament de continent en continent pour blanchir le médicament pour que ça apparaisse en Afrique et ça tue des gens. Mais si le médicament est produit en Afrique, ça veut dire, pour l'Afrique, ça veut dire que ça raccourcit effectivement le circuit et on peut très facilement cibler, identifier ces médicaments. C'est pour ça que nous insistons beaucoup sur cette capacité. Il faut que quand même l'Afrique ait une certaine autonomie aussi de prise en charge de sa santé. Et il faut vraiment miser beaucoup. Je suis d'accord avec les standards de qualité. On ne va pas permettre à n'importe qui de produire n'importe quoi. Un dernier élément sur lequel je veux revenir, comme j'ai l'occasion d'avoir M. Sidibé et l'OMS et la francophonie devant moi. Tout ce qu'on a cité aujourd'hui en matière de lutte contre les faux médicaments, je dirais toujours que le maillon communautaire n'a pas été très très développé jusqu'à présent. Avec le VIH-SIDA, on a vu ce que les communautaires ont pu faire pour changer le visage de la maladie, pour faire régresser la maladie. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de dire qu'on va finir avec cette épidémie. Mm-hmm. Mais malheureusement, au niveau des faux médicaments jusqu'à présent, on a discuté au niveau international, on a parlé de la législation, on a parlé de la production, mais l'engagement communautaire n'a pas encore été mis.
Ça veut dire
exergue.
Que d'après vous, Simon Cabouret, il faut davantage faire intervenir les acteurs de terrain dans ce genre de réunion, dans ce genre de conférence pour les impliquer davantage.
Exactement. Et j'espère que le plan d'action dont Madame la secrétaire générale a parlé mettra un accent également sur cet engagement communautaire.
Assurément.
Parce que je reviens sur quelque chose de destructif, c'est ce que la dame a dit. C'est parce que les gens ont pris conscience qu'ils ne consomment pas. Elle est obligée de changer de travail. Donc, il faut qu'on mette un accent fort sur l'engagement communautaire pour faire changer les mentalités et inverser la tendance.
Mmh. Michaël Jean, on approche de la conclusion. On voit bien l'ampleur de la tâche avec aussi bien faire prendre des décisions au niveau des gouvernements, des dirigeants, que d'informer le public qui va sur le marché, finalement, simplement pour soigner ses enfants, pour soigner un frère ou une grand-mère, avec aucune mauvaise volonté, mais simplement ce marché qui est non seulement un marché qui investit sur des actions criminelles, mais aussi sur la crédulité. Le manque d'éducation.
Oui, et moi je dirais aussi que la bonne nouvelle, soyons aussi sur une bonne nouvelle, c'est qu'on voit les choses avancer. Moi je pense qu'il est très important de valider, de reconnaître, d'encourager les bonnes pratiques qui ont été introduites dans plusieurs pays. Avoir aussi une approche inclusive, il est vrai, oui, la société civile, parce que le travail à la fois de sensibilisation, d'éducation, de prévention, parce qu'il faut une offre de santé, comme vous aimez dire, Michel. Et ça, c'est absolument essentiel. Sur la bonne gouvernance, sur la responsabilité sociale des entreprises, parfois s'assurer aussi dans la traçabilité, dans le chemin fait par les médicaments qui sont produits, même par des firmes pharmaceutiques qui sont au-dessus de tout soupçon, que l'on s'assure que nos produits périmés ne se retrouvent pas non plus sur des marchés. Il y a de ça aussi. Il faut une responsabilité globale, quoi. Il faut une responsabilité aussi dans le partage, je dirais, de nos connaissances, dans la mise en commun aussi des efforts portés par les différentes organisations internationales, les organisations régionales, aux côtés des États. Tout ce travail d'accompagnement est absolument nécessaire. Ça doit être l'affaire de tout le monde, au fait.
Michel Sidibé, ce rappel sur la qualité des médicaments, ce sera le mot de la fin. Mauvais médicaments, souvent simplement le reflet du système, de l'état du système de santé. Meilleur est le système de santé, meilleur est la qualité des médicaments. C'est aussi simple que ça.
Tout à fait. Je pense que la proximité, c'est pour ça qu'on s'est battu pour aller à l'Union africaine pour avoir 2 millions d'agents de santé communautaires. Il faut qu'on comprenne complètement qu'on ne pourra pas, avec le paradigme qu'on a aujourd'hui, on ne pourra pas atteindre les communautés. Les communautés sont le risque que nous avons, c'est qu'on ne pourra pas contrôler ces médicaments si on n'a pas cette interface avec les services de santé. Et moi, je voudrais ajouter que 116 000 décès supplémentaires dus aux médicaments falsifiés en Afrique sur le paludisme, c'est inacceptable. Et ces décès...
Encore, c'est limite inférieure.
C'est limite inférieure. Et ces décès, malheureusement, ont un impact terrible sur l'économie, sur la transformation de nos sociétés.
Ça fait tellement d'efforts.
Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat organisé à Genève, au Palais des Nations, à l'occasion de la conférence internationale sur l'accès aux médicaments et aux autres produits médicaux de qualité en Afrique francophone. Merci à vous, Michaël Jean, secrétaire général de la Francophonie, Bernette Bourdillon-Estève de l'Organisation mondiale de la santé, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, et merci à vous, Simon Cabouret, du réseau RAM du Burkina Faso. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique votre émission. C'est tout Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Aujourd'hui, pour cet enregistrement à Genève, Marc Fichet. Demain, nous parlerons de la lutte contre l'alcoolisme. Si vous voulez témoigner ou poser des questions, notre numéro 33 84 22 75 75. À demain.
Et Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.